Le choc des idées.
Oui, le choc des idées avec Martin Biron. Hello, Marty.
Allô, allô. Moi, je ris tout le temps dans les pauses avec André Roy. Hey, les cheveux courts, Martin. T'as fait couper ça?
Ben oui, court sur le top.
Viens de voir ça. Ouais. C'est beau, ça. C'est parfait.
Merci d'un gars qui a les cheveux courts sur le top aussi. Merci.
Ouais, c'est super beau.
Merci, André. André, t'as-tu encore ta grosse coiffe comme l'autre fois?
Ben ouais, check ça. Moi, je les laisse pousser. Je veux faire des concours de surf plus tard. Fait que je vais avoir une grosse touffe longue. Fait que. Un peu comme Ron Jeremy dans le temps. Bon, OK.
Non, c'est pas le nom. Non, c'est pas. Non, on va continuer.
Non, mais on parlait de touffe.
Ouais, c'est bon.
Je me rappelle la VHS, hein, tu sais, à la pension junior. On mettait ça dans le. Bon, OK. On enchaîne avec les Canadiens.
On enchaîne. On enchaîne. Une petite facile. Pendant que vos mères pensaient que vous écoutiez l'ancien compte en rappel. Le trophée Jacques Beauchamp, remis à la quatrième étoile, le joueur ayant grandement aidé l'équipe sans en soutirer les compliments, la gloire, semble s'en aller vers une unanimité de Josh Anderson. Donc, selon vous, en 2024-2025, ça devrait être décerné à Josh Anderson. Absolument, pas peint tout, André?
Moi, j'ai dit absolument. J'aime bien Garley. C'est sûr que c'est deux bons choix, mais je regarde juste Josh Anderson. La saison à l'an passé, cette année, c'est complètement un 360 degrés. Il a viré ça de bord. J'étais un de ses défenseurs l'an passé, défendeur. Ou en tout cas, je le défendais beaucoup. C'était très, très difficile. Là, on dirait qu'il a trouvé sa bonne chaise. On l'a mis un rôle défensif qui fait extrêmement bien. 9 buts l'an passé, là, il y en a 14. Il était à moins 18 quand il a fini l'année, il était à moins 1. C'est déjà, tu sais, une belle progression. Mais je pense aussi au fait qu'il joue avec une blessure depuis plusieurs semaines, puis il est là soir après soir, il frappe, bloque des lancers, puis il est là à chaque match. Puis, c'est un gars qui va défendre ses coéquipiers, puis je pense à quand Justin Barron s'est fait frapper par Trouba le match d'après Anderson du bas à New York avec Trouba, il passe un message. Tom Wilson en fin de match qui frappe Goulet à Washington, c'est qui arrive, Josh Anderson, tu sais, tout ce qu'il fait cette année, il apporte tellement un plus, il le mérite, on en parle de lui, mais je pense qu'il mérite vraiment le crédit, puis il mérite cet honneur-là tout simplement.
Trophée Jacques Beauchamp pour la saison 24-25 devrait être décerné à Josh Anderson. Absolument, pas pantoute, Marty.
Pas pantoute. Puis tu sais, vous nous donnez l'option absolument pas pantoute. C'est dur de dire pas pantoute parce que je pense que Josh Anderson mérite d'être considéré. Mais c'est Brendan Gallagher. Écoute, tu parles là de quatrième étoile. Tu sais, t'as Suzuki, t'as Caulfield, t'as Hudson, t'as Sam Montembeau. T'en as 4-5 là en avant de lui. Alors je me dis, c'est qui le prochain en ligne qui probablement ne sera pas considéré comme un des joueurs les plus utiles, mais qui va être considéré pour ce trophée-là? Moi, je mets Gallagher, puis c'est pas juste parce qu'il a repris un peu d'offensive cette année. C'est le travail qu'il fait. C'est sûr qu'il n'a pas la même responsabilité que Josh Anderson. Mais moi, je pense que sans Gallagher, le Canadien ne serait pas dans une place dans les séries présentement. Sans Josh Anderson, probablement qu'il puisse l'être si tout le monde travaille, puis si Gallagher a son apport aussi. Alors, c'est ça la différence entre les deux, d'après moi.
Ce
sera pas long. Liste des plaintes. Alors, sur le absolument pas pantoute, il y a eu François Gagnon, Steve Bégin et je rajoute Martin Biron.
Non, c'est pas une plainte. Je fais juste dire que des fois, c'est dur de dire hey, Josh Anderson, pas pantoute, trophée Jacques Beauchemin. C'est pas ça. C'est il est pas le candidat favori pour moi. T'aurais dû poser la question numéro 2. Le trophée est remis à Brendan Gallagher? Absolument! Oui, absolument! Moi, j'y vais avec ça.
Mais t'arrêtes. Tu sais, Martin, Gallagher, c'est une bonne réponse aussi. Honnêtement, il y a une superbe saison, là, tu sais, mais juste Josh Anderson, comment il revirait ça de bord? Tu sais, c'est deux bons candidats, je pense, mais il ne drop pas comme Josh. Fait que moi, je prends Josh.
Il y a ça aussi. Mais vraiment, moi, je suis convaincu, je pourrais en mettre un troisième puis vous convaincre. Il est l'attaquant le plus utilisé en désavantage numérique, sur un des meilleurs désavantages numériques de la Ligue nationale de hockey. Pourcentage de mise en jeu extraordinaire, joue au-dessus de 15 minutes, puis parmi les meneurs chez les Canadiens pour les buts gagnants, Jake Evans. parce que son étoile a pâli dans le dernier match parce que Armia est blessé, est en train de glisser de la conversation.
Ouais.
Mais en temps de jeu, il est le quatrième.
Parce qu'il a signé son contrat.
Depuis qu'il a signé, pareil, il n'est pas pareil.
Tu sais, on parle de Logan Thompson à Washington. Depuis qu'il a signé, ça va pas pareil. Mais tu sais, des fois, il y a une différence. C'est juste, moi, je pense que c'est plus un add-on. Mais tu as raison. Jake Evans devrait être dans la considérée aussi.
Quatrième attaquant le plus utilisé. Devant Anderson et devant Gallagher. Fait que si t'es plus utilisé, puis tu sais, Gallagher a la première étoile hier. Josh a eu des étoiles. Evans, là, parce qu'il joue en désavantage numérique, qu'il bloque des lancers, il n'a jamais d'étoiles, puis parce qu'il joue contre les meilleurs. Puis il est parmi les meneurs. Après Suzuki et Cole, je pense, c'est lui qui a le plus de buts gagnants chez le Canadien.
Mais il en avait vu des étoiles pendant la pandémie quand Scheifele l'a gelé. Là, il en avait eu des étoiles.
Ouais. C'est quoi ce rire d'Eddie Murphy?
C'est le rire à Georges.
C'est un faux rire. C'est vendredi, on fait des blagues.
Ouais, okay. J'ai eu peur. Martin, ça va être intéressant, ça.
Ouais.
Pour vous, Samuel Montembeau doit garder les filets pour les deux matchs en fin de semaine. Le 2-2, absolument pas payant tout.
Absolument. Écoute, le Canadien a fait l'erreur la semaine d'avant en faisant jouer Jakob Dobesch contre les Flyers. Ils ont perdu celui-là le lendemain. Sam a perdu en Caroline. Tu peux pas prendre de chance. Puis moi, je me base sur mon expérience. C'est Sam, c'est le gardien de but numéro un. Puis des fois, en fin d'année, tu dois y aller le tout pour le tout. L'année du lockout de 2012-2013, j'étais à New York avec les Rangers puis Lundqvist. À la fin de l'année, on se battait pour une place en série. Là, Tortorella puis Benoît Allaire, il venait me voir. Puis il disait, OK, en fin de semaine, on joue vendredi, samedi. Tu vas en goaler une des deux. Là, le vendredi, Lundqvist goal. Qu'on gong ou qu'on perde, c'était la même conversation. Là, le samedi, si on a perdu le vendredi, il faut gagner le samedi. Si on a gagné le vendredi, il faut en gagner deux en fil. Je m'excuse, Martin, mais Lundqvist, il retourne dans le filet samedi. C'était ça. Puis ça, c'est un numéro un. Un numéro un à la fin de la saison, quand t'en as besoin. Alors, fais pas l'erreur que t'as faite il y a une semaine et demie en voulant donner une game un peu plus facile à Dobesch. Bon, mais t'as perdu 6-4 contre les Flyers. Donne la première à Sam. Si tu gagnes, tu y vas 2-2. Puis si tu perds, t'as besoin de l'autre, tu renvoies Sam encore.
OK, j'aime ça. André?
Oui, ben Martin gardien. Hein,
non, mais je te lance, je vais te lancer, je vais te donner une swing, parce que je t'ai après me demander, voir est-ce que André Tourigny, c'est le pari qu'il a fait, puis il nous l'a dit. On est en match numéro 7, en match numéro 7, ferais-tu garder les buts à ton deuxième gardien de but? J'ai dit non. Il dit pour ça que c'est Vejmelka toi ce soir. Mais André, je te lance là-dessus. Je te lance là-dessus. Tu as le droit à une relance, tu as le droit à une réflexion, de bien passer les choses. Pour vous, Samuel Montembeau doit garder les filets pour les deux matchs de cette fin de semaine, les deux en deux. Absolument pas pantoute.
J'aime l'explication de Martin, par contre, à Philadelphie. Tu sais, je pensais que c'était un match prenable, mais ils ont congédié Torts le matin, fait que là, il est en feu, évidemment. Ils le sont encore. Mais ouais. Non, mais la raison, c'est que je me suis dit, écoute, demain, Sam dans le filet, c'est un dos à dos, puis j'ai l'impression que dans le dernier stretch, là, comme on dit, après les matchs, il reste Détroit, Ottawa, Toronto, Chicago, Caroline. Ottawa, Toronto, c'est un dos à dos. Mais on s'entend que c'est un vol de 45 minutes, c'est pas loin. Je pense que Sam peut être dans le flip, ces deux-là. Ça serait vraiment un match... Là, on s'en va à Nashville. Si Sam a joué la veille contre Philadelphie, là, tu t'en vas à Nashville, peut-être envoyer Dobesch qui est reposé. Nashville, qui ont perdu leurs 5 dernières, ils sont 2-8-0 dans leurs 10 derniers matchs. Je pense que c'est un match prenable, mais regarde, je pensais ça à Philadelphie aussi, puis ils l'ont perdu, celle-là. Mais je pense que Dobesch pourrait aller chercher la victoire quand même. Mais non, c'est ça. Fait que j'ai dit peut-être avant le long stretch, puis possiblement, si on rentre en série, peut-être donner celle-là de congé à Sam, puis que Dobesch fasse le travail.
Je vais te dire, là, ce que Martin Saint-Louis doit faire, c'est de dire Samuel goal demain, puis on va voir ça après le match en s'en allant à Nashville vendredi à samedi soir.
Ouais.
Parce que là, tu sais, si les Blue Jackets perdent, et si les Rangers viendraient qu'à perdre en après-midi, puis là, toi, tu gagnes, bien là, tu peux dire, OK, on va donner un break à Sam à Nashville. Mais t'as pas de décision de prix pour les deux. C'est Sam le premier, puis le deuxième match est ouvert à peu importe ce qui va arriver. Mais si les Rangers gagnent, Columbus gagne, toi, tu gagnes ou tu perds, bien peut-être que t'as l'opportunité de dire, on va y retourner avec Sam.
J'aime
bon
ça.
Point, Marty B. Ouais.
J'aime ça. La patience, la patience. Arber Jacky. Il y a quand même un bel exemple, Arber Jacky. Struble a été laissé de côté indéfiniment parce que le Canadien gagnait. Il a même fallu m'emmener le retourner à Laval. Il est revenu plus fort que jamais. Arber Jacky a un bel exemple que ça se peut. Vous, est-ce que vous le laissez dans les estrades? On vous a posé la question. Arber Jacky devrait jouer le match de dimanche à Nashville pour laisser reposer David Savard. Absolument. Pas peint tout. André.
J'ai dit absolument. Je sais qu'on ne change pas un alignement gagnant, mais pour l'instant, je pense qu'il fait partie du futur de un. Je sais qu'il ne joue pas très bien et il ne mérite pas d'être là. Je pense Struble, Goulet, tout le monde qui est là, même Savard, même si parfois c'est pénible. Je sais Madison aussi, là, des fois, il fait des erreurs défensives, mais il apporte plus de bien que de mal, je pense, à l'équipe du Canadien. Donc, mais cela dit, je pense que Arber, le fait d'avoir pris un pas de recul, de regarder les trois derniers matchs de la galerie de la presse, de la galerie, en tout cas du upper deck là en haut, là. Je pense qu'il peut avoir, ça peut lui donner une certaine leçon. J'ai l'impression qu'il pourrait, il pourrait revenir puis utiliser ça puis démontrer c'est quoi vraiment sa vraie valeur, tu sais, qu'est-ce qu'il peut apporter comme il l'a déjà fait. Fait que des fois, tu sais, juste d'être laissé de côté de même, ça te fait réfléchir, tu regardes ça d'une perspective différente, puis je pense qu'il pourrait aider en plus d'amener un élément de robustesse. Fait que oui, puis Savard, ça lui ferait du bien à 34 ans. Il a joué 34 ans, oui, il a joué beaucoup de hockey, il a manqué 5 ou 6 matchs seulement cette année, donc peut-être une pause à Nashville serait bénéfique. Puis ça revient un peu dans ce que Martin disait, là, le fait tout dépend les autres équipes. S'il gagne pair, c'est un match vraiment qu'on peut respirer ou on a besoin d'aller chercher, mais j'aimerais le voir éventuellement. Ben, je l'aime bien aussi, Jacky.
OK. Arber devrait jouer le match de dimanche à Nashville pour laisser reposer David Savard. Absolument, pas pantoute, Marty B.
Pas pantoute. Le problème dans la question, c'est qu'il y a deux parties de cette question-là. C'est est-ce que Arber Jacky devrait être réinséré dans l'alignement? C'est une réponse. Puis, est-ce que c'est pour David Savard? C'est l'autre réponse. Oui, il me prend des notes, Martin. Moi, je dis que oui, tu devrais probablement mettre Arber Jacky dans l'alignement parce que je veux pas le laisser de côté trop longtemps. Je veux l'embarquer, le garder dans le rythme, faire jouer des matchs. Écoute, tu t'en vas, là, si dans une semaine, deux semaines, quelqu'un se blesse, tu as besoin d'un défenseur, s'il n'a pas joué pendant 10 games, c'est longtemps. Mais j'enlève pas David Savard. J'enlève Struble. Fait que je mets Jacky avec Savard parce que eux autres ont joué ensemble. Je veux pas y aller avec Struble puis Jacky. Ça me fait peur. Ça me fait peur, là, puis c'est ça la différence. C'est pour ça qu'il y a deux parties de la réponse. Je dis pas pantoute remplacer Savard avec Jacky, mais si tu me poses la question, mettre Jacky dans l'alignement, absolument, à la place de Struble.
On aime ça.
Maintenant, juste Struble, s'il mérite d'être laissé de côté, tu sais, il joue quand même bien. Est-ce que c'est le gars que tu veux sortir? Mais ouais, ça pourrait être...
Il a joué 16 minutes, tandis que David a joué 10 minutes hier.
Puis c'est un droitier, là, je comprends ça aussi. On a juste lui et Carrier. Là,
premier désavantage numérique, etc. Ouais. La question se pose. OK, messieurs, le temps passe vite en bonne compagnie. On va faire une pause.
Et ouais.
Deux petites minutes et au retour, on va...
On mange des ailes de poulet épicées. Hein?
On va voir c'est qui peut en manger le plus. Es-tu bon pour faire la planche, toi, André?
Oui, mais hein, je suis à peu près 22 minutes. 22 minutes.
Parce que Georges, il dit que c'est impossible qu'il perde à faire la planche. On cherche un compétiteur.
Ben voyons donc.
On cherche un adversaire.
300 combien, Georges?
310.
310.
Faire une planche. Oh, pardon. Je veux dire, faire une planche, 310, c'est... il faut qu'il soit fait fort, là.
Est-ce que, est-ce que tu relèves le défi? Pense-y.
Oh non, moi, au retour. Ce temps-là.
On cherche quelqu'un pour affronter Georges.
Le gars à Stephen Finn, là, il a battu le record de burpees. Lui, c'est sûr qu'il le bat.
On veut faire la planche pour des burpees. Là.
Non, non, mais c'est sûr que s'il fait le record de burpees, il va faire la planche pendant une heure et demie. Là. Ouais. Son prénom, c'est quoi? Désolé, il m'échappe.
Samuel Finn.
Samuel Finn, oui. Sammy. C'est sûr qu'il le bat.
On cherche un adversaire.
Hey, j'ai trouvé un candidat, peut-être Snake Boisvert contre Georges. Ça pourrait être bon.
Je pense pas que ça va marcher, non.
Hey, couche-toi! mon Doberman.
Le trio de Cole Caulfield, Suzuki et Slaff est le meilleur trio de la Ligue nationale de hockey depuis le retour des Quatre Nations. Il a le potentiel d'un premier trio top 5 dans la Ligue nationale de hockey dans les prochaines années. Absolument pas peine toute. On commence avec la phase de désespéré à Martin Biron.
C'est encore une fois, c'est deux questions dans une. Tu sais, est-ce que c'est le meilleur trio depuis le tournoi des Quatre Nations? Je vais dire oui. Encore une fois, je ne peux pas répondre absolument. Mais si c'est un top 5 dans la Ligue nationale dans les années, les prochaines années, non, là. Tu sais, je peux mettre 4, 5, 6 trios qui vont être en avant d'eux autres.
Attends, le trio avec... Tu as dit 4, 5, 6. Si tu en mets 4, ça veut dire qu'ils sont 5.
Non, je vais en mettre 6, 7, 8, mettons. Ah, OK, okay là. Peut-être top 10, là, mais top 5, non, là. Tu sais, c'est sûr qu'ils vont bien présentement.
Je suis
très impressionné pour Suzuki. Puis même, là, je suis déçu. J'ai parlé à plein de gens aujourd'hui, puis j'ai dit Suzuki, Trophée Selke, 81 points, envoie. On dit, il va avoir des votes, mais ça sera pas des votes de 1, 2, 3, ça va peut-être de 4 et 5. Puis je dis, mais je suis déçu. Je suis déçu parce que moi, Suzuki, je le mets dans mon top 3. Tu sais, Barkov est là, Suzuki est là, il a la saison de l'année, il est là, il a la saison incroyable, il est là à la fin de la game, puis il est pas avec sa glace, avec son trio, il est là parce que tu as besoin de lui avec Evans puis Armia. C'est ça, un gagnant du trophée Selke.
Tu peux-tu gagner le Selke si tu joues pas en désavantage numérique?
Oui, tu peux être un très, très bon joueur défensif à 5 contre 5. Là, le meilleur attaquant défensif là, depuis plusieurs années, c'est un bon attaquant qui a des points. Tu sais, puis c'est souvent le centre. Si c'était Sam Reinhart comme allié, pourrait être ce gars-là avec ses performances au le désavantage numérique, mais souvent un joueur de centre. Moi, je dis, là, je le mettrais dans le top 3, mais là, de dire que c'est un des meilleurs trios, un des 5 meilleurs trios pour les prochaines années, non.
Donne-moi en 5.
OK, ben là, ça va changer, évidemment, avec les McDavid, avec Hyman, puis peu importe, que ce soit Draisaitl ou quelqu'un d'autre, McKinnon avec Natchez, puis Lehkonen, c'est très fort, ou là, ça se peut que ce soit Landeskog, ça rentre. Moi, je prends le trio de Eichel, Stone, puis peu importe qui c'est avec Barbashev. Eux autres. Hein? Barbashev, ouais. Tu sais, je t'en ai nommé trois, là. Puis je pense que on peut aller dans les alentours de la ligue puis en trouver trois autres.
OK. Ben, il y en a un pas pire à Dallas, là. Rupien, Jason Robertson, puis Rantanen.
Ouais.
Braden Point, Kucherov, pas mauvais, là.
Ouais. Regarde, ça fait cinq, là.
Bon, arrête de me crier après, là. Le trio Caulfield Suzuki Slaff est le meilleur
trio. Je crie au chien, André, couche-toi! C'est ça.
Suzuki Caulfield et Slaff est le meilleur trio de la Ligue depuis les Quatre Nations. Point. Il a le potentiel d'un premier trio top 5 dans la Ligue nationale de hockey dans les prochaines années. Absolument pas peine toute, André.
Ben oui, écoute, je fais mon fan. Non, j'ai dit absolument. Écoute, Suzuki, depuis qu'il est dans la Ligue, il fait que s'améliorer cette année. Il est à 81 points déjà. Tu sais, je pense qu'il t'a Caulfield, qui est un marqueur né, qui a 35 buts, 65 points. Slav, qui s'est mis en marche depuis le tournoi des Quatre Nations, il est à 48 points, 17 buts. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand tu regardes l'ensemble du trio, ils ont le potentiel pour devenir un bon trio. Top 5, c'est quand même gros, mais je dis absolument, ben, c'est vendredi, tout simplement. Puis, non, mais c'est un, tu sais, top 10, je serais plus à l'aise, mettons, à dire top 10. Mais non, c'est ça. C'est juste Suzuki, écoute, comme j'ai dit, à chaque année, il fait juste progresser. Caulfield, marqueur. Tu mets ça ensemble, tu sais, Slaff, faut juste qu'il ait sa constance là l'an prochain, puis je pense que ça peut devenir un trio qui va être dangereux, puis la preuve, c'est que depuis le tournoi des Quatre Nations, c'est un des trios les plus dominants. Faut juste qu'il fasse ça dès le début de la saison jusqu'à la fin, puis là, ils vont être vraiment de quoi regarder aller.
Je vous sors du Canadien. Elliott Friedman avance que dans son podcast que le Lightning est possiblement la meilleure équipe dans l'Est. Vous êtes d'accord avec lui? Absolument. Pas en tout, André.
Moi, j'ai dit absolument. Parce que je regarde le Lightning depuis la date limite des transactions. Évidemment, encore Yannick Gould qui s'est amené avec Bjorkstrand. Puis là, en attaque, j'ai parlé de Point, Kucherov, Gensel, Eagles, Cirelli, Paul. Évidemment, tu as un des top gardiens de but dans les filets en Vasilevski. Présentement, sont dans l'Est, la meilleure équipe pour le meilleur différentiel à plus 111. Puis tu sais, je regarde les équipes. T'as Washington, pas sûr. C'est pas sûr, là. Ils ont une saison exceptionnelle, mais Caroline, c'est dans les filets, Anderson puis Kochetkov, je suis pas sûr non plus. Toronto, ils prouvent à chaque année qu'ils sont pas capables d'aller au-delà de la troisième ronde, peu importe. Puis Floride, on dirait les derniers matchs que je les ai vus compétitionner contre le Canadien. Ça arrive là que tu as le numéro d'une équipe, mais je sais pas, il manque de quoi depuis que Montour qui est parti, ça a fait mal. Tu sais, là, évidemment, il manque Ketchuk avec Vlad, mais il y a quelque chose là aussi que je suis pas certain qu'ils vont répéter ce qu'ils ont fait l'an dernier. Tampa, selon moi, dans l'Est, est la meilleure équipe pour ces raisons.
Martin? Je te parle de Elliot Freeman qui avance dans son podcast que le Lightning est possiblement la meilleure équipe dans l'Est. T'es d'accord? Absolument. Pas en tout.
Écoute, je regarde l'alignement des Maple Leafs de Toronto et l'alignement du Lightning, puis je me dis Toronto est une meilleure équipe. C'est sûr que là, dans le filet, Vasilevski est meilleur que Stolarz ou Wall, mais la défensive, là, complète à Toronto présentement avec Tanev, avec McCabe. Je pense que c'est meilleur que ce qu'ils ont à Tampa, malgré que Edman est là, McDonough a beaucoup aidé. À l'attaque, ils ont plus de profondeur à Toronto qu'à Tampa. Alors, je dis que c'est Toronto la meilleure équipe dans l'Est. Puis, ils vont probablement gagner l'Atlantique. Washington, non. Je pense que ça va être rough en série cette année, Washington. Mais là, ça ne veut pas dire que Toronto va se rendre plus loin que Tampa en série. Les séries, c'est une autre saison, c'est une autre idée. Les Panthers puis le Lightning en série, ils l'ont fait. Ils ont déjà gagné. C'est pas pareil. Mais qui est la meilleure équipe sur papier? C'est les Maple Leafs de Toronto, d'après moi.
Big, on gage ma camisole signée par Kid Rock.
Que quoi?
Que le Lightning.
Tampa est la meilleure équipe.
Tampa va probablement se rendre plus loin que Toronto et Washington, mais... C'est peut-être pas la meilleure équipe. Ça veut pas dire ça.
Ah, OK. Attends une seconde. Prends une autre feuille. T'as encore la question qui est mal posée. Comme ça en note. Question.
Non, la question est très bonne posée. J'ai répondu à la question.
Moi, André, je veux voir ta
camisole. C'était un peu élaboré.
Je veux voir ta camisole.
Tu fais du bon travail. Laisse-toi pas te faire décourager par Martin et les autres.
C'est vous autres qui dites ça, c'est pas moi.
Non.
Les questions sont chiennes. Non, c'est chien.
Faut être chien. Ben, tu disais.
Non, je voulais voir la camisole signée par Kid Rock.
Et dans
la ruse.
Semaine prochaine, André nous fait ça, la camisole Kid Rock.
Tu sais, André, ton chum Andrew Peters à Buffalo, là, s'est déjà ramassé aux toilettes à côté de Kid Rock. Une conversation là, pendant 2 minutes, pendant que tous les deux étaient à la rue noire. Puis après ça, Kid Rock, il s'est venu dans notre salon, c'est qu'on avait un souper d'équipe à Caroline. Puis il passait une vingtaine de minutes avec nous autres. Puis, tu sais, il s'assinait avec les gars du côté hockey. On venait juste de battre la Caroline ce soir-là. Puis il s'assinait avec les gars. Il était incroyable, là. Mais ça, c'était en 2006, là. Tu sais, les séries en 2006.
Il connaît-tu quoi dans le hockey, Kid Rock, honnêtement?
Il est bien chum avec Carmanos, qui était le propriétaire à Caroline. Puis lui, c'était un gars de Détroit. Il connaissait Kid Rock. Puis il était souvent au match en Caroline dans le temps quand Carmanos avait l'équipe.
Eh bien.
Moi, la camisole, ça m'est arrivé à Anaheim une fois avec Dennis Rodman. On était deux. C'est vrai. Dennis Rodman, t'es allé, en tout cas, on s'est croisés, puis c'était quelque chose. On parlait de Carmen Electra, tout, c'était écœurant.
Ben, on sort là-dessus. On vous souhaite un bon week-end. Il me semble que ça lance bien le week-end.
Ça a bien commencé avec Ron Jeremy, puis ça finit avec Carmen Electra.
Hey, on parle de tout à BPM. Non, je sais pas, les gars, bon week-end.
OK, bon bye.
Salut. Bye-bye.